Bonsoir à tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie, pour ce nouvel opus du Libre Journal de l'Occident. Alors ce soir, vous savez que nous avons l'habitude de parler de sujets très vastes. Nous avons parlé culture, humour, histoire, géopolitique. Alors, nous sommes concentrés pas mal ces derniers temps sur la géopolitique européenne, notamment les élections en Roumanie, les élections en Hongrie, les élections en Pologne, les élections en Géorgie. Et en fait, un des parents pauvres de cette émission était un petit peu la politique européenne proche et des sujets qui nous concernent en fait au jour le jour. Et aujourd'hui, s'il y a bien un mot qui est sur toutes les langues, et nous y reviendrons, c'est un mot qui était plutôt banni du débat public jusqu'à présent, à savoir le terme de remigration. Alors ce soir, pour parler de ce sujet, nous avons trois invités qui connaissent particulièrement bien le sujet. Alors du fait des aléas du direct, un est avec nous à l'instant T et les autres nous rejoindront après. Alors nous accueillons dès maintenant Antoine Dresse. Bonsoir Antoine.
Bonsoir, merci pour l'invitation.
Avec grand plaisir. Donc Antoine Dresse, qui est un analyste politique belge, anime la chaîne de philosophie politique Egonon. Il est rédacteur pour la revue Éléments, que vous connaissez bien sur ces ondes, et responsable des éditions de l'excellent institut Iliade. Il a notamment écrit deux livres, Le réalisme politique et La guerre des civilisations, introduction à l'œuvre de Félix Konieczny. Excusez-moi pour la prononciation. Nous accueillerons également Daniel Conversano, que vous connaissez bien sur ces ondes. Il vient régulièrement intervenir sur le Libre Journal de l'Occident. Il a notamment commis « Nous échouerons vainqueurs ». Également « Désolé Jean-Pierre », mais aussi « Comment faire gagner Zemmour en 2027 ». Et enfin, « Le racisme anti-noir à travers les âges ». Et donc il sera avec nous un peu plus tard pour parler de cette question ô combien centrale aujourd'hui de la rémigration, et également Maïlys Clauzel, qui est journaliste à Ligne Droite sur ces ondes de Radio Courtoisie, qui travaille ce soir sur un gros projet, mais qui trouvera du temps à nous accorder pour parler remigration, et notamment du grand sommet sur la remigration, sa deuxième édition qui a eu lieu à Porto il y a 15 jours, 3 semaines, et sommet qu'elle a couvert pour Radio Courtoisie. Et elle pourra nous tenir au courant des grandes actualités de ce terme de remigration, qui en effet est très lié à l'actualité, puisqu'on en parlait très peu avant. Et nous allons aborder par ça. Et quand je dis actualité, bien évidemment, je parle de tout ce qui se dit rien que cette semaine, en fait, puisque c'est un thème qui est arrivé assez récemment dans l'espace public en tant que notion politique. Mais il existait déjà depuis au moins le début du XXe siècle. Nous allons revenir là-dessus. Notamment Pierre-Édouard Sterrin, qui lors de son audition au Sénat, audition qui a fait grand bruit, a dit en disant qu'il se situait à la droite de l'extrême droite, a assumé totalement être en faveur d'une rémigration. Alors lui a sa définition, comme quasiment tout le monde a sa définition. Lui, il parle des inactifs, des délinquants et criminels, etc. Il y a aussi, si on prend quelque chose, François Bousquet, qu'on connaît bien également, qui collabore avec vous à Éléments, Antoine, qui, je cite, a déclaré « Partout en Europe monte l'idée que les peuples peuvent redevenir majoritaires chez eux et que les États peuvent reprendre en main leur destin. Peu à peu, la remigration s'impose comme l'expression politique de cette aspiration. » Et Jordan Bardella, parlant des premières mesures qu'il voulait mettre en place, Thomas Joly du Parti de la France a déclaré que ces moyens n'étaient pas suffisants et qu'il faut le dire. Néanmoins, il faudra impérativement mettre en place les conditions d'une remigration massive, français de papier inclus. Alors ça, c'est encore une autre définition, et c'est quelque chose qu'on va tenter de faire ce soir, justement, en voyant rien que ces premières déclarations, c'est de définir ce qu'est la remigration, essayer de comprendre d'où vient ce terme, d'où vient cette notion politique, quels sont les champs d'application possibles, depuis où jusqu'à où. Ça va être une première partie pour essayer de cerner un petit peu la chose et de comprendre de quoi on parle. Ensuite, on va parler de possibilités réelles et de capacités d'une société libérale, sociale libérale, à mettre ça en place concrètement dans les faits aujourd'hui. Est-ce que c'est tout simplement faisable, ou est-ce que c'est un débat d'idées qui ne mènera à rien? Et puis puis, dernièrement, nous parlerons de la moralité de la chose. Pourquoi, comment, sur, je sais que j'ai vu une vidéo que vous avez produite il n'y a pas longtemps, Antoine Dress, sur la question de la moralité de la chose. Est-ce moral? Sur quels principes moraux cela peut s'appuyer? Et est-ce que c'est vraiment défendable aujourd'hui? Est-ce que c'est même souhaitable économiquement, démographiquement? Est-ce qu'il y a une réelle raison de défendre la remigration? Donc, assez parlé, Antoine Dress, je vous laisse la parole, peut-être pour nous présenter un petit peu les différents aspects de ce concept, d'où ça vient, comment ça a été popularisé, et pourquoi c'est aussi important aujourd'hui.
Alors, de vastes questions, évidemment, pour commencer. Vous avez dit beaucoup de choses intéressantes et beaucoup de choses sur lesquelles il faudra revenir. Effectivement, le terme de remigration est aujourd'hui sur toutes les lèvres. On en parle de plus en plus. Il y a eu le second sommet sur la remigration à Porto, enfin, au Portugal. C'était pas exactement à Porto, finalement, mais il y a une dizaine de jours. Il y a la grande pétition qui tourne en ce moment, le Save Europe Act, dont on aura certainement l'occasion de parler. Et j'aurais envie de dire, un peu pour paraphraser, vous savez, la première phrase du manifeste du Parti communiste qui disait « Un spectre hante l'Europe ». C'est le spectre du communisme. Aujourd'hui, un spectre hante l'Europe, c'est celui de la remigration. La remigration est une idée qui fait son chemin. Comme vous l'avez dit, il y a encore une dizaine d'années, le terme de remigration était vraiment relégué au bas-fond d'Internet. C'était un terme qu'on ne prenait pas vraiment au sérieux ou qui était le marqueur d'une forme de radicalité presque stérile. Ça, en tout cas, ça paraissait être une idée très peu crédible. Alors que, effectivement, c'est un terme qui est utilisé par des démographes anglo-saxons ou allemands depuis des décennies. Le terme de rémigration en polonais, réémigratia, désignait les Polonais qui sont rentrés en Pologne après la Seconde Guerre mondiale pour participer à la reconstruction de leur pays, qui avait été bien ravagé par les affres de la guerre. Donc c'est un terme qui ne sort pas de nulle part, mais qui effectivement a acquis une signification politique extrêmement forte, et je dirais même polémique au cours des dernières années, car il est présenté comme la solution, comme le remède à ce qu'on appelle le grand remplacement. C'est un peu, en fait, le terme de remigration ne signifie rien, ou du moins ne veut pas dire grand-chose si on ne le met pas en relation avec celui du grand remplacement. Donc le grand remplacement, terme, expression forgée par Renaud Camus, qui désigne ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Beaucoup de gens disent « moi je ne crois pas, croyez-vous au grand remplacement ou non ?» Il n'y a pas à croire ou non au grand remplacement. Un grand remplacement est un fait. Bon, tout au plus, on pourrait contester cette expression et lui en donner une autre appellation. Mais le grand remplacement est un fait observable partout. Et la remigration est la solution qui est apportée à ce problème. Alors effectivement, chacun a un peu sa définition de la remigration. Il y a des gens qui ont une conception, on va dire, un peu plus douce, légale, légaliste. Vous avez cité Pierre-Édouard Sterrin, qui propose la remigration pour tous les illégaux, je crois, ou pour les personnes inactives. D'autres personnes désigneront ou défendront un concept de remigration bien plus fort, sur des bases beaucoup plus ethniques. Mais en tout cas, le noyau, ce qui va faire l'unité de toutes les définitions de la remigration, c'est qu'il faut inverser les flux migratoires. C'est-à-dire que le grand remplacement est une menace existentielle qui peut littéralement détruire les pays européens, la civilisation européenne, et la remigration est la seule solution à cette menace existentielle.
Alors en effet, c'est Julien Rochdy, il me semble, qui disait il y a peu, alors j'ai vu la vidéo aujourd'hui, elle date peut-être d'il y a un jour, deux jours, trois jours, qui disait « êtes-vous pour ou non ?» Il disait « c'est pas vraiment la question en fait, la seule question que vous devez vous poser, c'est êtes-vous pour la disparition de la France telle qu'on l'a connue ethniquement ou non ?» Et à partir du moment où on se pose cette question-là, et si votre réponse est non, vous êtes forcément en faveur de la rémigration, qui est la seule solution à ce problème qui, en effet, est lié au grand remplacement, nié pendant extrêmement longtemps. Et je pense que c'est important de mettre en parallèle les deux termes, puisque le terme grand remplacement n'avait pas voix au chapitre, ne pouvait pas apparaître dans l'espace public. Et aujourd'hui, on parlait de théorie, on parle toujours, certains parlent encore de théorie, même si c'est ridicule. Et face à ça, on a les plus grands combattants de cette théorie que sont les gens de LFI qui se vantent et qui se gaussent et qui applaudissent un grand métissage. Donc en fait, ils reconnaissent et valident eux-mêmes cette théorie, une grande créolisation, comme le disait Jean-Luc Mélenchon. Et donc ils valident totalement cette théorie. Et donc ce qui pousse à croire, en effet, que bah, ce terme de remigration, qui était totalement un ovni politique il y a quelques décennies, aujourd'hui peut être envisagé sérieusement. Et on parle d'ailleurs... On parlait du Remigration Summit en introduction. Lucas Chancerelle, également à nos amis et co-auteurs, me demande de rappeler que le 31 octobre à Paris, il y aura une version un peu française de ce sommet sur la remigration organisé par Polemia. Donc on vous encourage à garder ça à l'esprit, chers auditeurs, et à ne pas hésiter à rejoindre cet événement, à le soutenir également financièrement. On sait que nos amis de l'Iliade, de Polémia, d'Éléments ont besoin de notre soutien et qu'ils sont aussi attaqués de toutes parts. Alors Daniel Conversano, je pense que donc on a rappelé un petit peu en introduction tous les ouvrages que vous avez commis, et ça c'est encore rien par rapport à tout ce que vous produisez à côté, à l'image, à l'antenne, à l'audio, et tout ce à quoi vous collaborez pour justement essayer de faire comprendre à l'Occident qu'il se dirige dans un mur et qu'il faut qu'il se réveille s'il ne veut pas disparaître. Vous également, qui militez depuis extrêmement longtemps dans la lignée de vos parents, il me semble aussi qu'il y avait des engagements politiques. Vous avez vu un petit peu ce curseur qui se déplace. Jean-Marie Le Pen avait déjà des mots très forts, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un peu hérité de la nouvelle droite, d'Anne Benoît, qui a été repris par le bloc identitaire, puis par les identitaires, et qui enfin a été repris par Éric Zemmour. Donc on voit que c'est un terme qui sort un petit peu du carcan purement militant, purement terrain et de l'école d'idées, à quelque chose que le grand public essaye de cerner aujourd'hui et débat même, savoir si c'est possible, si c'est moral. Comment voyez-vous la chose et comment l'avez-vous vu arriver, vous qui suivez l'actualité politique depuis autant d'années?
Plusieurs choses. Merci pour cette invitation. Merci aussi de cette présentation. J'ai bien aimé l'expression, vous avez commis des ouvrages. Comme si c'était délictuel. Ça, non, mais c'est pas mal. Ça va bien avec mon côté provocateur. Déjà, je vous prie d'excuser pour mon retard, parce que c'est pas vu. Vous avez donné la parole à Antoine avant, vous avez bien fait. J'étais en fait sur ma chaîne YouTube et j'en parle, non pas pour faire la promo de ma chaîne YouTube, mais parce que justement, j'ai tenu à aborder un sujet qui est brûlant. La Suisse aura à voter dimanche via référendum pour la limitation de sa population à 10 millions d'habitants. Alors, vous allez me dire quel lien avec la remigration? Alors, il n'y en a pas immédiatement avec la remigration. Évidemment, il y a un lien avec l'immigration, puisque si cette loi passe, et bien ensuite, les gouvernements successifs auront la possibilité de bloquer toute entrée, qu'elle vienne d'Europe ou qu'elle vienne de pays non européens, au nom de cette limitation du nombre total de citoyens et d'habitants en Suisse à 10 millions. Alors évidemment, les arguments qui sont donnés sont un peu divers et variés, hein. Ils sont économiques, mais ils sont aussi écologiques, voilà, moins pollués, une vie plus agréable pour les habitants, donc une densité de la population contrôlée, etc. Mais tout ça va dans le sens d'un ras-le-bol général face à la transformation de nos sociétés européennes. Et je crois que ce n'est pas un hasard si c'est un parti suisse, d'ailleurs, qui a proposé ce référendum. Pour répondre plus directement à la question que vous m'avez posée, moi je crois que, bien sûr, hein, tout ce que vous avez dit est juste. Le mot remigration, je me souviens très bien, hein, en 2012-2013, j'étais déjà militant, on l'entendait, on avait presque peur de le formuler sur Internet, même à l'écrit. Aujourd'hui, voilà, lors de sa campagne 2022, Éric Zemmour a proposé un ministère de la remigration, à la surprise de tout le général. Bon, on peut dire que c'était un peu la tentative de la dernière chance. Avant le premier tour, mais enfin, il l'a fait, c'est tout ce qui compte. Mais moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est que le mot remigration soit repris par le pouvoir en place actuellement, hein, aux États-Unis. C'est-à-dire que, donc là, effectivement, on n'est pas dans l'histoire européenne, mais les États-Unis sont un pays, voilà, historiquement bâti par des euro-descendants, et de voir que la Maison-Blanche utilise le mot remigration, alors certes, ça s'applique pour l'instant. Eh bien, aux étrangers illégaux qui n'ont pas le droit, hein, d'être aux États-Unis. Ça ne s'applique pas, évidemment, il n'y a pas de critères ethniques pour l'instant. Mais en tout cas, ils se sont emparés du mot et ils l'ont fait vraiment sans, je veux dire, sans honte. Ils y sont allés à fond, les deux pieds dedans. Moi, c'est à peine si j'y croyais. avec des publications. Comme ça, on voyait les clandestins menottés, renvoyés comme ça, manu militari par avion, et le mot remigration comme ça écrit, comme si d'ailleurs la communication avait été faite par quelqu'un de génération identitaire. C'est très impressionnant, et ce qui s'est passé là-bas peut tout à fait se produire chez nous très prochainement. Je le souhaite bien sûr.
Alors, il y a un point que vous abordez qui est très intéressant, c'est celui de la démographie. Là, en effet, les États-Unis, on se souvient de cette question de la remigration. Il y avait des mèmes, vous savez, ces images humoristiques qui étaient faites sur, alors d'habitude sur des comptes plutôt de l'alt-right, de la droite alternative américaine, qui d'ailleurs ont participé hein, à amener le courant trumpiste au pouvoir une seconde fois. Mais là, c'était directement posté sur les comptes publics des administrations de Donald Trump. Et on voyait sur la page du Homeland Security, notamment en charge justement de l'appréhension des clandestins et de leur migration. On voyait une plage ensoleillée avec une planche de surf plantée dans le sable, avec écrit les États-Unis, quand nous aurons remigré 100 millions de personnes. Alors moi, ça m'avait un peu choqué à l'époque, parce que sur un pays de 340 millions d'habitants, on peut se dire c'est absolument énorme comme chiffre, quelle mouche les a piqués. Et là, j'ai vu juste avant de venir que Bovino, l'ancien directeur de l'ICE, de l'officine chargée d'appréhender les clandestins et de les remigrer, maintenait ses propos et disait vouloir se présenter éventuellement aux prochaines élections présidentielles afin de mettre ça en application et de déporter 100 millions de personnes. Donc ça, c'est important, cette question de démographie, parce qu'encore une fois, on parle de 100 millions sur 340 millions. Et un argument qu'on pourrait nous donner, c'est que nous, en France, la démographie, c'est pas notre point fort. On sait, alors je reviens d'Italie il y a quelques mois sur lequel j'ai étudié le modèle Meloni, qui a du mal à trouver un équilibre également hein, entre cessation de l'immigration et un des taux de natalité les plus faibles d'Europe. Mais en France, même si on a un meilleur taux de natalité qu'en Italie, c'est pas ça non plus. Et on nous dit que l'INSEE projette qu'en 2070, on sera à 65 millions d'habitants, ce qui ferait 3,2 millions de moins qu'en 2026. Qu'en 2026. On nous dit que pour financer les retraites, ça va être impossible, qu'aujourd'hui, il y a presque 2 300 000 projets de recrutement en France qui sont jugés pour presque la moitié difficiles par les employeurs. Voilà. Antoine Dresse, vous parliez dans une de vos dernières vidéos du bien commun par rapport aux droits individuels, à savoir que défendre le droit de chaque migrant, ces termes sont importants, de chaque migrant de pouvoir naître illégal nulle part, de pouvoir se réfugier des conflits, de la misère économique, apporter une stabilité à sa famille, que ça, c'est ça qui primerait avant tout. Et vous, vous y opposiez le bien commun, en disant que le bien commun devait toujours passer avant les biens individuels. Mais si le bien commun des Français, c'est de maintenir une démographie élevée afin de pouvoir financer notre système de retraite et notre productivité, est-ce que réellement la remigration ou la cessation totale de l'immigration deviennent le bien commun?
C'est une bonne question, et effectivement, elle nous obligerait à aller en détail dans de très nombreux sujets. En préambule, il faut que les auditeurs soient bien conscients de ce fait que l'immigration de masse, même si elle est une catastrophe fondamentale et qu'elle risque bien de détruire à terme nos identités, nos cultures, nos pays, etc., ne vient pas de nulle part. C'est-à-dire que les pays européens ont connu d'abord une période de baby-boom, comme chacun sait, et puis un moment où les gens, les Français, les Européens ont commencé à faire moins d'enfants. Et la décision de nos gouvernements à l'époque a été de maintenir la croissance à tout prix et, pour pallier le déficit de naissance, de faire appel à d'abord une immigration de travail qui ensuite, avec le regroupement familial, etc., est devenue une immigration de peuplement. Bon, c'est une décision qui, je pense, est catastrophique. Ce n'est pas une décision qu'ont pris les gouvernements asiatiques comme le Japon, par exemple. Mais le problème vient de là. Il faut partir de ce problème fondamental pour qu'on sache dans quelle direction envoyer la remigration. C'est-à-dire que bon, beaucoup de gens à droite, et pas seulement à droite d'ailleurs, nous disent que la remigration est un fantasme et quelque chose qui ne pourrait pas marcher. Là, avant de commencer cette émission, j'ai vu une nouvelle réponse de Michel Marmin dans Élément qui prenait ça un peu de haut pour nous dire que à la remigration, ben, il faudrait construire une gigantesque autoroute de France en Afrique du Nord.
Vinci, il y a un contrat à prendre.
Voilà, c'est ça. Évidemment, la remigration n'est pas un grand coup, c'est-à-dire on prendrait tous les immigrés, tous les illégaux, tous les naturalisés, tous les non-assimilés, et on les renverrait en une semaine chez eux. Si on défend la remigration comme ça, évidemment qu'elle est impossible, évidemment qu'elle est un fantasme. La remigration est un processus à long terme qui implique des groupes de populations différentes à traiter de manière différente, avec des objectifs différents, des objectifs à court, moyen et long terme également. Et cette remigration doit être accouplée d'une politique nataliste et de nouvelles manières de repenser le relancement de la natalité. Mais alors vous parliez du bien commun. De toute façon, il faut qu'il y ait quand même cette clause, cette espèce de principe intouchable. L'immigration, même si certaines immigrations peut être utile d'un point de vue économique dans certains secteurs déterminés, l'immigration ne peut jamais être utilisée comme moyen de pallier à la démographie. C'est-à-dire que ça, il ne peut pas être question de défendre le bien commun dès lors qu'on œuvre un remplacement de la population par une autre. Ça, c'est vraiment le principe fondamental. Et c'est pour ça que cette question de la remigration et ce combat de la remigration touche en fait à de très nombreuses autres questions philosophiques, questions de l'identité, questions de l'individualisme, d'une pensée communautaire ou non. Et excusez-moi. Et donc, effectivement, les défenseurs de l'immigration de masse aujourd'hui le font au nom des droits individuels des migrants. On nous invoque leur situation dans des pays en guerre, leur volonté de s'en sortir économiquement, etc. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que aucun État n'a le devoir moral de garantir la satisfaction de ses droits individuels à des non-citoyens. C'est-à-dire que moi, si demain, pour des raisons culturelles et économiques, je décide d'aller m'installer en Chine parce que il me semble que c'est un pays qui me conviendrait mieux, je peux tout à fait tenter ma chance. Mais si la Chine estime que je n'ai pas ma place dans ce pays et que ma présence n'est pas désirable, je n'ai aucun droit à faire valoir. Je n'ai aucun droit à faire valoir contre l'État chinois. Eh bien, ça doit être notre position également vis-à-vis de l'immigration. C'est-à-dire que dans certains secteurs, on peut admettre que une immigration d'un point de vue temporaire peut être acceptable, mais ces personnes immigrées, ces travailleurs étrangers, n'ont aucun droit à faire valoir contre la communauté nationale, contre la communauté autochtone. À chaque fois, on nous sort des arguments comme oui, mais ces personnes-là se comportent bien, ces personnes-là s'intègrent au travail, mais c'est la moindre des choses. Il n'y a rien de particulièrement méritoire là derrière. C'est comme si j'invitais des amis à manger et puis l'ami part, je dis ben, c'est vraiment quelqu'un de bien, il n'a pas cassé toutes les assiettes. Ben, c'est la moindre des choses, encore une fois.
Bien sûr. Alors là, c'est vrai que c'est quelque chose auquel on touche, que nous, je pense que nos auditeurs comprennent bien sur Radio Courtoisie, mais qu'en fait la majorité des Français, ou en tout cas une minorité très active de Français, fait mine de ne pas comprendre, c'est que dans la plupart des civilisations du monde, civilisations ou même non-civilisations d'ailleurs, des pays du monde, ça fonctionne pareil. J'en parlais encore avec des camarades d'origine d'Afrique du Nord aujourd'hui qui me disaient, nous en effet, on a un comportement de contrôle de l'immigration à nos frontières avec l'Afrique subsaharienne qui n'a absolument rien à envier à l'ICE. Voire est bien pire. L'ICE, en effet, arrête de manière musclée les gens aux frontières avant de les remigrer par avion entier dans leur pays d'origine, alors que souvent les polices migratoires d'Afrique du Nord rejettent juste simplement les migrants sans eau dans le désert et les laissent mourir de soif et de faim si, ou de chaud s'ils n'arrivent pas à rentrer chez eux à pied. Et ça, c'est sans parler évidemment de toutes les histoires terribles qu'on a entendues au travers de la Libye et autres. Dans les pays asiatiques, j'en ai entendu également, hein, envers des Français. Des Français qui arrivaient après un séjour long en Thaïlande et qui n'avaient pas renouvelé leur visa parce qu'ils se croyaient tout puissants en tant que Français, détenteurs d'un passeport français, et qui se retrouvaient du jour au lendemain en prison en Thaïlande parce que ça, ils avaient dépassé leur visa de 2 mois. Ils avaient une dette de 3 000 euros de non-renouvellement de visa qu'ils remboursaient à hauteur de 14 centimes par jour en prison. Et donc leur avenir était quand même relativement difficile. Et donc vous parlez de choses. En effet, Antoine Dresse, c'est l'intégration notamment, et ça, c'est un peu un fil rouge sur cette question d'immigration, puisque à deux niveaux, ça revient assez régulièrement. Il y a en effet l'intégration pure, à savoir des articles dans la presse très régulièrement. Tel assistant boulanger, bah, tel apprenti d'un boulanger qui certes n'a pas de papier mais qui travaille dur depuis 3 ans va se faire expulser du pays. On voit tous les commentaires de boomers en dessous disant non mais attendez, le pauvre Mamoudou, il a bien travaillé, pourquoi est-ce qu'on le jette alors qu'il travaille dur dans une boulangerie depuis 3 ans? Donc ça c'est le premier sujet, hein, c'est le sujet purement lié à l'intégration qui quand même touche au cœur des Français et qui pourrait poser un certain problème pour mettre en application des politiques strictes. Et la deuxième question, c'est en effet la question de l'intégration légale, puisque aujourd'hui il n'y a absolument aucun mécanisme juridique qui pourrait permettre de mettre en application ce que disait Thomas Joly, je le citais en introduction, que même pour certains Français de papier, il faudrait réfléchir à l'inversement des flux. Alors il y a ce mécanisme en effet, hein, de déchéance de nationalité dans les cas de terrorisme, mais ça concerne une poignée de personnes en France. Donc Daniel Conversano, vous qui avez une connaissance élargie du sujet, puisque vous connaissez bien les différentes politiques européennes également, vous voyez un petit peu ce qui se passe en France, vous citiez ce qui se passe en Suisse, vous connaissez particulièrement bien la Roumanie, et puis évidemment, je pense évidemment à tout ce qui touche à l'Europe de l'Ouest et l'Europe centrale, vous avez une vision assez claire sur la question. Quelles sont les lignes rouges qui sont dures à franchir aujourd'hui, qui seront dures à franchir demain, et qu'est-ce qu'on peut vraiment envisager concrètement pour mettre en application ce type de politique?
Alors, tout à fait, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on devrait répéter plus souvent, et peut-être d'ailleurs que les politiques, hein, donc ceux nos plus grands représentants, les politiques de droite français, n'insistent pas assez là-dessus. C'est-à-dire que oui, les gens du centre ou de la gauche vont vous dire mais il y a l'immigration partout. Je veux dire, à part en Corée du Nord, il y a de l'immigration absolument partout, même au Japon, il y a de l'immigration. C'est vrai, il y a des flux. Je veux dire, on est des pays développés, on est dans le monde contemporain. Les billets d'avion ne coûtent rien, donc il y a du tourisme, il y a des échanges entre les universités et des échanges étudiants. Bien sûr, il y a des secteurs d'activité où on a vraiment un besoin urgent de travailleurs, donc on va aller chercher à l'étranger. Mais ce qu'on ne dit pas assez, et pourtant c'est vraiment le béaba, c'est qu'on peut choisir sa politique d'immigration. C'est-à-dire qu'on peut choisir le nombre, on peut choisir qui on accueille, on peut choisir qui on n'accueille pas. Et tous ces choix-là sont effectués par d'autres pays. On a vraiment, je ne dirais pas qu'en France, c'est le pire parce qu'il faudrait tout connaître. Il faudrait comparer comme ça la peste et le choléra. On a des pays qui ont des politiques d'immigration folles. La France, le Royaume-Uni, l'Allemagne en grande partie, la Belgique. Ce n'est pas le cas de tous les autres pays européens. Ce n'est pas le cas des pays d'Europe centrale. Oui, ces gens reçoivent des immigrés légaux, des immigrés de travail à leurs conditions. Notamment, je dirais, la plus grosse différence, c'est que l'obtention de la nationalité n'est pas automatique. Elle n'est pas non plus impossible pour un non-européen. Un non-européen peut devenir hongrois ou polonais, mais le parcours du combattant qu'il va suivre afin d'y parvenir est, je dirais, presque dissuasif. Donc, ces pays-là, qui ont pourtant un poids diplomatique et même encore économique inférieur à la France, choisissent, en fait, tout simplement, les conditions auxquelles ils reçoivent les immigrés. Et quel immigré bénéficiera ou pas de la nationalité, qui est un trésor, en fait. Je dirais vraiment que s'il fallait faire un classement de toutes les absurdités, la plus grande absurdité, vraiment, c'est de donner la nationalité aussi facilement, de naturaliser des citoyens non-européens, de leur offrir ce cadeau merveilleux qui est être français, avec tout ce que ça implique, et notamment le fait de voter aussi facilement. Quand on compare aux pays asiatiques, moi, c'est vraiment quelque chose que je n'ai jamais compris. Pourquoi aucun pays européen ne s'est, en tout cas d'Europe de l'Ouest, ne s'est aligné sur les politiques d'immigration en Thaïlande, au Vietnam, au Japon? Dans ces pays-là, vous pouvez y aller en tant que touriste, vous avez un visa. Quand le visa s'achève, vous devez repartir. Si vous demandez la nationalité, vous ne l'obtiendrez probablement jamais. Hein, c'est le cas notamment en Thaïlande. Même si vous apportez, même si vous dépensez de l'argent dans ce pays-là, même si vous apportez de la valeur, bien, vous êtes bien traité, mais comme un étranger. Donc, vous ne pouvez pas voter pour le destin futur de ce pays. Et ça, c'est vraiment des choses… On a ces politiques d'immigration folles en France depuis si longtemps que beaucoup de Français pensent que d'ailleurs, c'est automatique. C'est-à-dire quelqu'un qui immigre, qui émigre chez nous, ensuite, on est obligé de le garder, on est obligé de lui donner la nationalité, on est obligé de faire venir toute sa famille, mais pas du tout. Ce n'est pas du tout le cas. En revanche, dans le droit européen, effectivement, le regroupement familial est inscrit comme un droit humain, quelque chose comme inaliénable. Donc c'est vrai que il y a une lutte entre les lois nationales et ce que formule en fait Bruxelles, en fait ce qu'il commande. Mais bien entendu, ça aussi il faut le rappeler, certains pays membres de l'Union européenne tout simplement ne se soumettent pas aux directives de Bruxelles et malgré l'indication, l'obligation théorique du regroupement familial, ne le pratiquent pas pour l'instant. Mais je dirais que oui, la naturalisation et le regroupement familial ont été les deux pires choix en matière d'immigration que les gouvernements français ont fait ces 50 dernières années. Mais avant de vous redonner la parole, on revient simplement à la question précédente parce qu'elle était très intéressante. Vous avez dit finalement, beaucoup de gens en ont marre de cette immigration massive, mais d'un autre côté, les Français, et pas seulement les Français d'ailleurs, les Européens ne font pas assez d'enfants. C'est une réalité, c'est vrai, c'est une réalité économique qu'il faut prendre en compte. Mais il faut aussi prendre en compte l'avenir proche. Et l'avenir proche, c'est une amélioration de la productivité via le développement des intelligences artificielles et de la robotisation, qui arrive d'ailleurs historiquement comme, presque comme un miracle, exactement au bon moment. C'est Marc Andreessen, l'auteur du Manifeste Techno-Optimiste, qui dit qu'il y a quelque chose de miraculeux à voir que cette augmentation céleste, comme ça, de la productivité, arrive exactement au moment où les Occidentaux ont l'air d'aller au bout du postmodernisme, ne veulent plus travailler ou plus autant qu'avant, ne veulent plus faire d'enfants, etc. Et ça, c'est des choses que les élites aussi peuvent avoir en tête. C'est aussi, ça a été formulé par quelques politiques de droite suisse qui ont dit « mais on a plus besoin de considérer une Suisse à 15 millions d'habitants au nom de la croissance économique et des retraites, parce que de toute façon, dans quelques années, demain à l'échelle historique, eh bien, il y aura, pour être très concret, pour ceux qui ne sont pas au courant de cette révolution technologique en cours, le besoin en travailleurs sera moins important année après année, pour le pire et pour le meilleur. Mais en tout cas, la conséquence positive que ça aura, c'est qu'il ne sera plus nécessaire qu'il y ait, on va dire, une quantité importante d'actifs afin de payer les retraites de la génération des boomers et plus, parce que tout simplement les robots vont remplacer les travailleurs, je ne peux pas le dire autrement. Donc on peut distinguer, après humainement on peut dire que c'est quelque chose qui va changer l'humanité en profondeur, on peut se poser des questions philosophiques à ce sujet, mais d'un point de vue identitaire c'est tout bénef, si vous me permettez l'expression.
Alors on peut dire aussi que dans un premier temps, ça touchera prioritairement les CSP+, qui ne sont pas forcément les premières à représenter l'immigration, et que les ouvriers du bâtiment, de la restauration et autres, dans lesquels les immigrés sont les plus nombreux, seront peut-être les derniers à être touchés. Après les chaînes de production, c'est encore autre chose, ça peut être robotisé, mais ce sera dur, ça pourra venir d'avoir votre électricien sur un chantier de Bouygues, qui respecte bien sûr évidemment la législation, mais qui est remplacé par une IA à court terme.
Pour répondre là très brièvement, les deux se produiront dans un intervalle de temps qui, d'un point de vue historique, peut être considéré comme le même en fait. Dans un premier temps, effectivement, ce sera les gens qui ont de très hautes compétences, non, il ne faut pas exagérer, ça prendra des années. Mais pour les personnes, on va dire, les cadres, les secrétaires, les gens qui ont un travail même intellectuel, mais qui est facilement remplaçable par l'IA, effectivement, il pourrait y avoir des pertes d'emplois. Mais dans le domaine, dans le secteur primaire ou secondaire, ça arrivera également. C'est prévu. Voilà. Donc, il faut l'intégrer dans la réflexion quand on se dit qu'il n'est absolument pas possible d'arrêter l'immigration au nom de sacro-saints principes économiques. Voilà. Je ne parle même pas du fait qu'en tant qu'identitaire, je considère que la remigration doit avoir lieu parce qu'elle est une nécessité. Voilà. Elle est une nécessité de civilisation, elle est une nécessité de sauvetage même de la population européenne. Mais j'en ai parlé parce que même cet argument économique, au fond, sur 20 ou 30 ans, il ne tient pas.
Alors en effet, c'est vrai qu'il y a cette question. Alors Antoine Dresse, si vous voulez rebondir là-dessus avant que je renchaîne sur d'autres questions, j'ajouterais juste, c'est vrai que c'était un débat qu'on avait eu en Italie avec les équipes de Meloni, qui pour nous ne comprennent pas forcément les dangers En fait, il remplaçait l'immigration illégale par 500 000, l'entrée de 500 000 travailleurs légaux sélectionnés, mais tout de même 500 000. Et en fait, c'est ça qu'ils comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas cette culture de l'immigration massive en Italie. Ils ne comprennent pas le danger. Ils nous parlent d'assimilation, des miracles de l'assimilation, puisque ce sont des gens qui viendraient avec un permis de travail en main et donc qui seraient forcément des travailleurs et qu'on s'intègre par le travail. Mais c'est vrai qu'il y a une notion qu'on a mal jaugé aussi en Europe, c'est ce sacro-saint, on est obligé puisque les Français ne veulent pas travailler. Et on a en effet cet oreiller confortable de chômeur qui existe en France, qui ne veut pas travailler d'après les grands patrons, d'après les médias subventionnés, mais qui en fait ne veulent pas travailler à ce prix-là, puisque les prix sont constamment tirés à la baisse par l'immigration massive que font venir les grands patrons et des politiques de gauche, mais servant les intérêts des grands patrons, et donc ne permettent pas aux Français de vivre avec un salaire décent. Et donc, ce qui en effet ne pousse pas à augmenter le taux de natalité en France. Et c'est une chaîne en fait absolument infernale. Comme le taux de natalité est faible, on fait venir des immigrés, les immigrés font baisser les salaires. Comme les salaires sont bas, les gens ne veulent pas avoir d'enfants. Donc, c'est vrai que c'est absolument invivable. Antoine Dresse, vous vouliez rebondir sur ce sujet?
Oui, bon, je suis vraiment tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire et également avec ce qu'a dit Daniel. Mais alors, je voudrais revenir ou préciser une chose. Je pense effectivement que le développement de l'intelligence artificielle, de ce gain de productivité qui va être inévitable, qui va être une des conséquences inévitables de cela, doit être pris en compte dans toutes les discussions sur l'immigration de masse et, a fortiori, sur la remigration. Là où je pense que néanmoins nous nous heurtons à un obstacle qui va résister au développement de l'IA, en tout cas en Europe de l'Ouest. Je pense effectivement que l'IA va surtout être une aide pour les pays d'Europe de l'Est ou d'Asie de ne pas recourir à une immigration de masse, parce qu'ils pourront s'appuyer là-dessus. Chez nous, malheureusement, nous avons aussi affaire à l'héritage des naturalisations complètement folles et qui ont été complètement bradées pendant des décennies. En France, en Belgique, ça se fait depuis très très longtemps. En Allemagne, c'est assez récent, mais ça a été très vite depuis Angela Merkel. Avant elle, l'Allemagne était relativement préservée de ce côté-là. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez profond et qui ne peut malheureusement pas être balayé du revers de la main. C'est-à-dire que si on prend toutes les populations d'origine non européenne dans nos pays, on peut globalement distinguer trois grands groupes. Le premier, ce sont tous les demandeurs d'asile, ou peut-être même quatre, tous les demandeurs d'asile. Les illégaux, ensuite les personnes qui ne sont pas naturalisées mais qui travaillent, qui sont intégrées, et enfin tous les naturalisés mais non assimilés, c'est-à-dire des gens qui, on appelle grossièrement les Français de papier, donc les gens qui ont la nationalité française mais qui en fait continuent à vivre à l'algérienne, à l'africaine, qui ne parlent même pas le français très souvent, etc. Bon, pour ce qui est des premières catégories, on peut s'en sortir relativement facilement avec un peu de volonté politique. C'est-à-dire que les illégaux, normalement, à moins d'être particulièrement loin dans le fanatisme d'extrême gauche, on devrait tous s'accorder sur le fait que des illégaux doivent être renvoyés chez eux. La définition est comprise dans le terme. Les demandeurs d'asile, quand bien même on conserverait le droit d'asile, qui est une tradition très importante, il faut rappeler que tous les réfugiés ont vocation à rentrer chez eux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'asile est utilisé comme une passerelle vers la résidence permanente et vers la naturalisation. Donc, il faut faire une réforme du droit d'asile qui est vraiment drastique pour que l'asile soit plus court, voire peut-être pour ne pas accueillir tous les réfugiés chez nous, mais plutôt faire des partenariats avec d'autres pays, parfois plus proches des pays en guerre, en l'occurrence, pour que les réfugiés n'aillent pas en Europe. Il y a toutes sortes de moyens économiques ou de pression politique auxquels nous pouvons recourir. L'immigration de travail, eh bien, on en a déjà dit quelques mots auparavant, c'est-à-dire que l'État n'a pas de droit particulier à leur rendre, c'est-à-dire que si on a besoin d'une certaine population pour travailler dans certains secteurs, on peut faire appel à elle, et en fait c'est gagnant-gagnant. Ce sont des gens qui viennent pour travailler chez nous parce qu'ils estiment que la situation leur est préférable, et nous estimons que leur travail nous est utile pour une durée déterminée, mais on peut bien mettre une limite à leur résidence chez nous. Mais ensuite, nous avons tous les naturalisés, c'est-à-dire tous les gens qui ont reçu la nationalité française. Et là, Si on veut rester dans l'état de droit, si on veut œuvrer à une réforme au sein des institutions dans lesquelles nous sommes, là, il va falloir œuvrer de manière patiente, de manière réfléchie, etc. Et donc, il faut penser à des politiques d'aide au retour, de retour volontaire. On peut développer toutes sortes de politiques aussi de pression culturelle, c'est-à-dire rappeler qu'il y a une culture dominante qui doit être respectée en tout lieu et que les autres cultures ne sont que tolérées dans notre pays. Par exemple, le Danemark a développé toutes sortes de politiques qui peuvent être amusantes au premier chef, mais qui en fait sont pensées comme des moyens de pression pour dégoûter des populations étrangères. L'interdiction du halal, par exemple, est une manière de rendre plus difficile la pratique de l'islam dans son pays. Donc, un immigré musulman pourrait se dire, bon, j'ai pas fait, je préfère aller en France qu'au Danemark, parce qu'au moins en France, je pourrais manger halal. Pour recevoir la nationalité danoise, le gouvernement danois oblige à serrer la main des femmes, par exemple, pour recevoir la citoyenneté. Eh bien, comme des musulmans intégristes refusent de serrer la main des femmes, eh bien, ils ne reçoivent pas la nationalité à cause de ça. Donc, on peut penser à toutes sortes. On peut être beaucoup plus sévère avec la justice. On peut mater certains quartiers difficiles avec la police, etc. On peut instaurer un climat qui rendrait non enviable la vie dans nos pays pour les gens non assimilés et leur donner envie de rentrer chez eux aussi. Ça peut être, ça fait partie du panel de politiques possibles que nous avons à notre disposition.
Et ça, c'est en effet quelque chose qu'on voit déjà dans le débat public français. Je pense que je ne partage pas forcément avec les commentateurs islamiques l'intégralité de leurs analyses, mais eux-mêmes, pour beaucoup, commencent à dire la France est un pays qui ne nous veut pas, il va falloir commencer à nous organiser, alors certains pour prendre le pouvoir, d'autres pour retourner dans des pays musulmans. La France nous persécute, les médias nous persécutent, les politiques nous persécutent. Macron est considéré comme un terrible salaud d'extrême droite qui persécute les musulmans. L'extrême droite, c'est même pas la peine. S'il passe, c'est encore pire. Il faudra penser à faire ses valises, etc. Donc en effet, c'est déjà quelque chose qu'on voit dans l'espace public français. Maintenant, quelle possibilité de voir un jour nos dirigeants avoir une véritable volonté, puisqu'on a vu des choses un petit peu ridicules à droite avec Retailleau qui, dans ses meetings, hurlait à bas le voile, etc. Mais de manière un petit peu sortie de son chapeau, très populiste, sans qu'il ait vraiment montré d'intérêt particulier pour le fait d'être dur avec l'islam radical. Et en fait, nous, dans ce qu'on voit aujourd'hui, on a des Zemmour qui prônent l'assimilation, la remigration, mais pour les clandestins, mais qui prônent l'assimilation, des Jean Messia qui prônent la rémigration pour des clandestins, mais qui prônent l'assimilation. Donc en effet, dans quelle mesure une véritable volonté politique peut se mettre en place aujourd'hui? On a vu qu'en 2024, une loi immigration avait été votée qui était déjà extrêmement légère par rapport à ce dont le pays a besoin aujourd'hui et qui a été vidée de son sens par le Conseil constitutionnel et qui aurait été totalement retoquée par la CEDH. Comment est-ce que demain, alors que déjà nos politiciens les plus à droite aujourd'hui parlent vraiment du bout des lèvres d'un début de solution à apporter au problème, et que s'ils y arrivaient, ils seraient bloqués par absolument tous les mécanismes nationaux et européens, on peut imaginer concrètement arriver à une solution de remigration demain en France? Daniel Conversano, est-ce que ce serait par tout simplement faire sécession avec ces institutions? Est-ce que ce serait au contraire changer l'Europe de l'intérieur en s'appuyant sur ces pays conservateurs qui sont en train de mettre à leur tête des nationalistes, on peut le dire, ou des identitaires, ou comme vous voulez? Est-ce que Zemmour parlait de tenir tête face à Bruxelles, quitte à ce qu'ils envoient les chars, disait-il? Est-ce que, parce qu'on a parlé de la volonté populaire tout à l'heure en introduction, aujourd'hui la capacité juridique et politique à le mettre en place réellement.
Oui, d'ailleurs, c'est d'autant plus énervant qu'on sait que Bruxelles n'enverrait pas ses chars.
Ouais.
Voilà. C'est d'autant plus énervant
Si, mais
parce
des
que,
chars roses avec des cotillons.
voilà. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette menace un peu de Bruxelles qui dit attention, attention, sinon. Et en réalité, les seules sanctions concrètes que Bruxelles est capable d'envoyer, et elle le fait quand elle le désire, sont des sanctions économiques. Les sanctions économiques des pays comme la France pourraient les encaisser, mais il est vrai qu'en Europe centrale, en Europe de l'Est, c'est un vrai enjeu, un vrai levier hein, qu'utilise Bruxelles en disant, même en envoyant des messages, d'ailleurs on est à deux doigts de l'ingérence hein, politique, mais faire circuler comment dirais-je, des campagnes publicitaires militantes hein, pour dire à la population locale, en Hongrie, ou dans les Pays-Baltes, ou en Pologne, si vous votez pour tel candidat, les subventions européennes vont tomber sur votre pays. Ah, ça va pleuvoir comme ça du ciel, alors que si vous votez pour l'autre candidat, bah, il n'y a pas d'argent. Donc oui, effectivement, ça c'est un énorme problème. Maintenant, pour répondre à votre question, je crois que le rôle de la droite alternative ou radicale, peu importe comment on l'appelle, et où nous sommes, hein, qu'on le veuille ou non, c'est qu'Antoine n'a pas du tout ne ressemble pas à quelqu'un de radical, mais il l'est de fait, en fait, hein, simplement par ses idées hein, sur la remigration, c'est d'avoir de l'avance hein, sur les politiques. C'est-à-dire que ce que j'entends dans certains discours même de Bardella, mais essentiellement d'Éric Zemmour, c'est des choses qui se disaient sur Internet il y a 15 ou 20 ans. Et il y a 15 ou 20 ans, simplement, même sur Internet, le niveau de radicalité générale était plus faible. Je vais vous donner un simple exemple. Hein. Quand j'ai commencé à faire des vidéos, je ne parle pas des vidéos les plus, on va dire, les plus fantaisistes que j'ai pu faire, mais quand j'ai commencé à faire des vidéos où j'ai donné mon avis politique, je vous assure que c'est vrai. Quand j'employais le mot blanc dans une vidéo, des gens du milieu venaient me contacter en message privé, me disaient bravo, voilà, on aime bien ton travail, etc. En revanche, fais gaffe quand tu dis le mot blanc, quoi. C'est-à-dire que c'est incroyable. En 2010, même dire blanc positivement, c'était vu comme un acte, en fait, comme une prise de position raciale forte. Donc ces choses-là ont quand même évolué. Le problème, c'est que la durée d'une vie humaine est trop courte. On a l'impression que les choses n'avancent pas, simplement qu'elles avancent, mais extrêmement lentement. Maintenant, vous me posez une question, j'y réponds avec honnêteté. La remigration, ce n'est pas pour demain. Ce n'est pas pour demain, c'est certain. Encore une fois, notre but, c'est de mettre déjà ce rêve politique dans la tête du maximum de citoyens français. Là, on est à un niveau en France où chaque année, on reçoit plus d'étrangers que l'année précédente. Donc, les politiques qui, on va dire, se préparent au combat politique réel, c'est-à-dire en fait à la prochaine échéance des élections présidentielles, déjà, s'ils se mettent comme objectif, s'ils se donnent comme objectif et qu'ils y parviennent, de réduire le nombre d'entrées de 500 000 par an à 50 ou 100 000, c'est déjà, entre guillemets, révolutionnaire. Donc, bien sûr que quand on désire la remigration plus que tout, cette attente est insupportable, d'autant qu'on ne sait pas si on y arrivera un jour. Mais moi, je le dis souvent à mes camarades et je le dis à tous les auditeurs et les militants hein, qui peuvent écouter cette émission, aucune époque n'a été facile. Chaque nationaliste, chaque personne investie d'une cause dans l'histoire de l'Europe et même de l'humanité a toujours dû porter une croix. Voilà. Aujourd'hui, la nôtre, c'est vraiment ce vivre ensemble imposé avec des populations qui viennent du bout du monde et qui arrivent dans des quantités effarantes, particulièrement en Europe occidentale. C'est terrible, c'est effectivement inédit. Mais il y a 100 ans ou 200 ans, il y avait d'autres problèmes. Voilà. Pensons à nos ancêtres qui ont été mobilisés à 17 ans, à 18 ans pour aller se battre à Verdun et pour beaucoup y mourir. Donc c'est difficile, personne ne le nie, mais je pense que on est nombreux à voir tout simplement la fin du film alors que finalement on n'en est qu'au début. On n'en est qu'au début de la lutte. Moi je pense que mécaniquement, et je ne suis pas le seul à penser, la souffrance causée par le vivre ensemble et le grand remplacement amènera nécessairement une réaction et forcera même les élites à changer de direction. C'est-à-dire que, sans parler même, mettons de côté la souffrance individuelle qu'on peut ressentir au quotidien à voir son pays transformé, avoir des lieux qu'on aime changer, etc., avoir l'insécurité et tout ce qui s'ensuit. Nos pays finiront par ne plus fonctionner correctement à mesure que la population première sera changée, tout simplement. Je veux dire, c'est d'une évidence. Alors là, en plus, là, je dirais que c'est la jurisprudence d'Elon Musk. Elon Musk lui-même l'a formulé. Il a dit, la chose la plus simple et bête du monde est vraie pourtant. Un pays, c'est un peuple. Voilà, vous changez le peuple, vous n'avez plus le même pays. Donc, les gens qui pensent que les institutions les infrastructures, les administrations, bref, la vie du quotidien vont fonctionner comme elles fonctionnaient en 1980 avec une population en France qui sera même majoritairement non blanche à partir de 2040, ces gens se mettent le doigt dans l'œil et bien sûr, bah, les élites étant protégées, en tout cas plus que nous, de se vivre ensemble, elles s'en rendront compte un peu plus tard que nous. Mais ça finira forcément par arriver, j'en suis persuadé.
Merci beaucoup Daniel Conversano. Avant de reprendre nos échanges, nous allons passer un petit bobino, puisque nous le rappelons, Radio Courtoisie fonctionne grâce à vos dons. Nous enchaînerons sur un petit intermède musical original sur les ondes de Radio Courtoisie, puisqu'un Libanais chrétien qui perce en ce moment va nous expliquer le tiraillement qu'il a d'avoir la double nationalité franco-libanaise. Et nous pourrons commenter sur cette expression d'amour aux deux pays et ce que ça peut représenter. À tout de suite.
Radio Courtoisie, libre, sans publicité, sans subvention, 1,5 million d'auditeurs par semaine, des milliers d'écoutes en ligne. De 13 ans à 99 ans, vous nous écoutez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en ligne. Désormais, les podcasts de Radio Courtoisie, les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous gratuitement. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Mon pays d'origine m'appelle, mon pays d'origine m'appelle. C'est mon héritage, c'est ma joie, ma bouffée d'oxygène. Quitter Paname, la Seine, pour les montagnes, la plaine, le soleil, la mer, mes racines, ma terre, ma princesse, ma reine, mon amour, mes gènes, mon bonheur, ma peine, mes origines m'appellent. C'est plus fort que moi, je me vois déjà me balader là-bas, descendre un verre de hara. Mon pays d'origine m'appelle, mon pays d'origine m'appelle, même dans sa misère je l'aime, c'est là que mon cœur me mène. Le pays de mon père m'appelle, le pays de ma mère m'appelle, c'est mon héritage, c'est ma joie, ma bouffée d'oxygène. J'y vais pour me vider la tête, la nature, la fête, saveur, les recettes, les étoiles, les paillettes, les plaisirs de la vie, la famille, les amis, chanter, danser jusqu'au bout de la nuit. Je descends de la billet vers la Méditerranée, en hiver, en été, je bois le café de la Raque. Mon pays d'origine m'appelle, mon pays d'origine m'appelle, même dans sa misère je l'aime, c'est là que mon cœur me mène. Pays de paix, loin de l'écho des bombes et du danger. Là où la liberté respire l'égalité, là où l'égalité crie la fraternité. Mais je suis imbibé de ma dualité, c'est mon identité. Fi baladen BLB. Mon pays d'origine m'appelle, mon pays d'origine m'appelle, même dans sa misère je l'aime. Que mon cœur me mène, le pays de mon père m'appelle, le pays de ma mère m'appelle. C'est mon héritage, c'est ma joie, ma bouffée d'oxygène.
Parfait, alors après cet interlude musical, Antoine Dresse, justement on arrive à la partie un petit peu moralité, on l'a abordé sur la question du bien commun, mais un peu plus philosophique, si on reprend bon, cette musique, moi ce qui me marque c'est que on a le thème global, de toute façon c'est mon pays d'origine m'appelle, ça c'est très clair, c'est une ode au soleil, à la tradition culinaire libanaise, à la culture de la fête, à la prégnance de la famille, même de la topographie. Il parle des montagnes, de la plage, etc. Il nous dit « Je n'oublie pas le pays où je suis né », en parlant de la France, et en nous parlant de liberté, d'égalité, de fraternité. Ce sont les 12 secondes qu'il y a sur la France, et il enchaîne sur un « mais ». Voilà, je me vois déjà là-bas, voilà, mon pays de cœur m'appelle, etc. Donc, est-ce que déjà c'est possible? Parce qu'on parlait, en fait, il y a des termes qu'on a mélangés depuis tout à l'heure. On a mélangé, en effet, naturalisation, nationalité, citoyenneté. En effet, j'ai vu que vous employez ce terme avec parcimonie. Est-ce qu'on peut avoir une double nationalité? Ou plutôt une double citoyenneté? Est-ce qu'on peut avoir deux appartenances? Est-ce qu'on peut avoir deux fidélités? Puisque les grandes tensions internationales un jour vont nous pousser à nous poser certaines questions. Est-ce que c'est véritablement possible d'envisager cette double vie, en fait?
C'est une vaste question. Il y a des destins individuels, évidemment, qui peuvent embrasser une certaine complexité. Mais je parle de complexité à dessein, c'est-à-dire que avoir deux origines. Alors, je n'ai pas très bien compris ce qu'il en est du cas de ce chanteur, s'il est
franco-libanais.
Il est franco-libanais, c'est-à-dire qu'il a un père, mettons, français et une mère libanaise.
Il me semble que ses deux parents sont libanais, l'ont mis au monde en France, et que ou par le passeport de ses parents, il est devenu français, ou de par le droit du sol, il est devenu français. Ouais.
Voilà, donc ça change déjà la donne. C'est-à-dire que quand on a les deux parents de deux origines différentes, alors là, effectivement, on peut vraiment parler d'une double origine, d'une double appartenance, et parfois d'un certain déchirement. Alors aujourd'hui, on vit dans un monde un peu bisounours, c'est-à-dire qu'on va parler de grandes richesses, etc. Oui, on peut voir cela comme une grande richesse, mais on peut y voir aussi un déchirement. C'est-à-dire que même quand les deux origines viennent d'une même civilisation et de pays très très proches, j'ai un ami par exemple qui est franco-hongrois, donc un parent hongrois, une mère française, il est pleinement hongrois, il est pleinement français, et en même temps il n'est ni hongrois ni français. C'est-à-dire que lui-même me disait qu'il ne se sentait ni totalement français ni totalement hongrois, il parle parfaitement la langue des deux pays, et il se sent toujours un hiatus. Et quand il est en France, et quand il est en Hongrie. Et pourtant, ce sont des pays d'une même civilisation, européens, la différence d'origine ne se voit pas vraiment sur son visage, dans son phénotype, etc. Donc, il y a des destins individuels qui sont complexes, mais, bon voilà, vous avez cité toutes sortes de concepts qui sont différents, nationalité, origine, citoyenneté. Pour ce qui est de la citoyenneté, c'est-à-dire de l'appartenance politique à un corps social, je trouve qu'il est difficile vraiment de concevoir une double citoyenneté. Pour, si on fait ne fût-ce qu'une expérience de pensée, imaginons que les deux pays auxquels on appartient ou auxquels on est supposé appartenir sont en conflit armé ou même simple conflit diplomatique, etc. Bien, il faut choisir, il faut prendre parti. Et cette double appartenance fait vraiment partie des aberrations contemporaines, comme si finalement les appartenances politiques n'avaient aucune importance. Et pour ce qui est de la nationalité, oui, d'un point de vue légal, évidemment, que cela existe. Mais je pense que très simplement, je veux dire, depuis maintenant un siècle, on commence à remettre de plus en plus à question la notion d'identité chez nous. Au fond, qu'est-ce que c'est être français? Alors les uns définissent le français par des valeurs. À gauche, on va définir ces valeurs comme l'égalité et la liberté, hein, ce qui a été cité dans la chanson. D'autres vont dire qu'être français, non, c'est être catholique, royaliste, c'est aimer le bon terroir ou je ne sais quoi. On oppose valeur contre valeur, mais en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Notre identité, c'est tout simplement notre ascendance. Et ce n'est ni bien ni mal. Moi, je suis belge parce que mes deux parents sont belges. Et ce n'est ni un titre de gloire, quelque chose dont vraiment je me félicite par rapport à autre chose. Nous sommes ce que nos parents nous ont légué, tout simplement.
Alors, Daniel Conversano, vous, ça vous parle, puisque vous êtes, je pense, un grand patriote français, habitant actuellement en Roumanie, marié à une Roumaine et père d'enfants roumains, franco-roumains, j'imagine. Comment est-ce que cette transmission s'opère? Comment est-ce que, en fait, pour reprendre simplement les propos d'Antoine Dresse, cette dualité est possible au niveau européen? Est-ce qu'elle est accessible à tout le monde? Comment est-ce qu'on peut envisager une transmission à l'avenir de ces deux identités? Est-ce qu'il y en a une qui devra s'estomper avec le temps? Quelle est la place de cette dualité dans le monde politique qui nous concerne ce soir?
Oui, c'est une question qui revient très souvent lorsque je fais des émissions. Les gens me demandent, ça fait quoi d'être franco-italien? D'ailleurs, je suis un binational, effectivement, j'ai la double nationalité. Je précise, histoire de le dire, que si une loi interdisait la double nationalité, j'en prendrais acte et je resterais seulement français, ça me va parfaitement. Je trouve ça cohérent et ce serait sans doute même une bonne loi qui bénéficierait finalement. D'un point de vue nationaliste, je pense que c'est une bonne loi. Simplement, je précise que moi, je reste binational. Non pas que le passeport italien me sert d'une quelconque manière à l'international. En revanche, il me permet de voter en Italie. Et ça, j'estime que c'est important. Voilà. Tant qu'on peut avoir une binationalité européenne, on peut l'utiliser d'une façon politique. Quand on est un militant, je trouve ça logique. Maintenant, je comprends l'idée du déracinement. Alors là, je dirais qu'on touche aux différences entre individus. C'est-à-dire, on a des gens qui sont extrêmement enracinés dans la culture française. Je vais dire des choses qui peuvent paraître un peu dérisoires, mais qui n'arrivent vraiment pas à vivre, par exemple sans la nourriture française. Ils vont à l'étranger, ils ne mangent pas la même chose qu'en France, c'est vrai. Il y a certains produits qu'on retrouve, et d'autres, surtout des façons de cuisiner qu'on ne retrouve pas à l'étranger. Voilà, ces bons repas qu'on peut faire dans des restaurants, même des brasseries françaises qui ne payent pas de mine, c'est vrai qu'on ne le retrouve jamais dans d'autres pays. En Roumanie, vous aurez beau chercher, vous ne mangerez jamais une tête de veau comme en France, on ne mangerait jamais certains plats. Donc, c'est plus difficile pour certaines personnes que pour d'autres. Par rapport à ce qu'a dit Antoine, c'est intéressant, j'ai eu un sourire quand il a évoqué le cas de son ami franco-hongrois, parce que moi, c'est le contraire. Je suis franco-italien et je me suis toujours senti et français et italien. Je dirais presque d'une manière, d'un point de vue mathématique et irrationnel, à 100%. Voilà. C'est-à-dire que quand je suis en France, je me sens parfaitement français, j'ai les mêmes références culturelles que mes amis français. Dire franco-français, évidemment, j'ai plus de culture française que de culture italienne, parce que j'ai toujours vécu dans ce pays. Mais je veux dire, quand je suis en Italie, je dirais mon sang italien se réveille tout à coup, cette sympathie permanente, voilà, ce goût du café, de passer des heures en terrasse, cet humour aussi typiquement italien, je l'ai en fait au fond de moi. Donc, moi, je ne ressens pas cette souffrance. Pour achever de répondre, c'est vrai que mon cas est un peu particulier, parce que je suis un nationaliste français, mais dont le père était italien, et maintenant je vis en Roumanie. Bon, là, j'ai vraiment fait le tour de l'Europe. Mais je crois que le simple choix qui était le mien de me déraciner autant, quelque part en allant en Roumanie, montre que pour certaines personnes, dont moi, échapper à l'immigration de masse est plus important que de rester dans un cocon et dans un quotidien que l'on connaît. C'est pas le cas de tout le monde. Là, je reviens à ce que j'ai dit au début de ma réponse. C'est au cas par cas. Voilà, il y a des personnes chez qui le déracinement fait plus souffrir, que la vie dans un pays en voie de remplacement de population. Moi, c'était le contraire. Voilà. Donc, je vais être franc. Quand je suis en Roumanie, là pour le coup, je ne me sens pas roumain. Je vis en Roumanie comme un étranger, mais pas désagréablement non plus. Mais je suis content de mon choix pour mes enfants. Voilà, je sais que mes enfants sont en sécurité. Je sais qu'à l'école, on ne leur apprend pas des absurdités issues de la théorie du genre. Voilà, il y a certaines qualités dans l'art de vivre roumain qui font que je suis satisfait de cette décision. Mais je peux finir là-dessus en étant honnête. C'est jamais facile. Voilà, ma femme est blanche, mais elle est roumaine. On n'a pas les mêmes codes culturels. On n'a pas tout à fait le même humour. Parfois, on ne se comprend pas. Ça crée des situations, ça crée des quiproquos vraiment très bizarres parfois. On croit qu'on s'est compris parce qu'on a quand même une langue commune, elle parle français, mais en fait, on ne s'est pas compris. Ce n'est pas facile au quotidien, donc c'est à chacun de voir dans la balance ce qui fait le plus souffrir, en fait. Voir son pays se transformer en direct ou bien vivre à l'étranger, finalement. Tout le monde ne le supporte pas. Je sais également, on a un exemple illustre. Michel Houellebecq a habité, donc le romancier Michel Houellebecq a habité longtemps à l'étranger. Et il y a quelques années, il a décidé de revenir. Et lui, c'était la langue. Il a dit, j'ai été heureux dans certains pays, comme l'Espagne et d'autres, mais ne pas entendre parler français autour de moi, au bout d'un moment, ça m'a rendu tellement malheureux que je suis revenu, peu importe comment on vit en France. Et je dois admettre que c'est la langue et ce qui me manque le plus quand je ne suis pas en France. Le fait de ne pas pouvoir m'exprimer dans ma langue maternelle, c'est vraiment quelque chose qui est assez difficile à supporter. Voilà.
Alors, justement, je trouve que cette complexité qui est attaquée par deux angles différents, et par Antoine Dress et par Daniel Conversano, nous permet de revenir encore plus clairement sur le sujet d'origine, même si on ne s'en est pas vraiment éloigné. Alors juste pour compléter un peu ce que disait Daniel Conversano, c'est vrai qu'on a vu ces derniers jours Baptiste Marchais, qui lui a même été jusqu'à demander au gouvernement français de lui retirer sa nationalité française, puisque dans
je
son
crois
discours...
Que c'est Papacito plutôt.
Ou Papacito, pardon. Papacito, même... Même oui, j'ai confondu le taux de testostérone. Parce qu'en effet, il disait que dans sa logique, il ne reconnaît pas les Français de papier comme de purs Français, et ce n'est pas en perdant ses papiers qu'il perdra sa nationalité française. Tout ça, ce ne sont que des décisions de la République qui ne lui importent guère. Nous voilà, mais tout ça pour revenir sur le sujet. Donc on a vu en effet dans les échanges avec Antoine et avec Daniel que c'est d'une grande complexité ces questions de citoyenneté, de nationalité et en fait de présence sur un territoire, de légitimité de présence sur un territoire pour les multiples raisons. Donc on a évoqué tout à l'heure, Antoine Dress a évoqué quatre grands types de populations. Et donc j'ai l'impression en fait que après une heure et quart d'émission, presque, on en est un peu au même stade, à savoir ça va être compliqué de dresser une ligne fixe et claire de qui sera concerné par la remigration. Évidemment, les illégaux, il n'y a pas photo. Est-ce que, à partir de combien de générations on est légitime ? Est-ce que ça dépend purement de l'intégration ? Comment est-ce qu'on pourra juger de l'intégration de familles entières qui sont là même depuis extrêmement longtemps ? Comment est-ce qu'on pourra mettre ça en œuvre ? Parce qu'on parle quand même d'une population qui représente entre 10% et 20% de la population française selon les estimations. En fait, de ce que je comprends, on va devoir faire ça forcément intelligemment, par des mesures dissuasives dans un premier temps, par des politiques d'encouragement au retour dans un second temps. On voit que Trump avec l'ICE, c'est pas forcément le plus grand des succès puisque ses prédécesseurs avaient presque plus déporté que lui, mais lui en revanche a été le champion jusqu'à présent du retour volontaire vers les pays d'Amérique du Sud. Et enfin, en fait, la remigration telle qu'on l'entend nous, à savoir un grand mouvement, tel que certains l'entendent, excusez-moi, grand mouvement dur et autoritaire de retour obligatoire vers les pays d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne ou certains pays d'Asie centrale, c'est pas vraiment réellement quelque chose qui est au centre de notre discours aujourd'hui, Antoine Dress.
Oui, eh bien, vous avez un peu énoncé la marche à suivre. En fait, à moins de considérer effectivement que notre cadre politico-légal ne s'effondre complètement et que nous nous situons dans un total état d'urgence qui nécessite des mesures autoritaires, c'est-à-dire après une dans un temps de crise, de guerre civile, de conflit ethnique, de perte des légitimités totales des institutions, eh bien, il faut œuvrer dans le cadre qui est le nôtre actuellement. Daniel Conversano, plutôt, a dit une chose que je trouve assez intéressante. Il a dit que, mécaniquement, d'une certaine manière, le niveau de souffrance deviendra de plus en plus élevé, ce qui conduira à une réaction quelle qu'elle soit. Je suis en partie d'accord, mais peut-être pas sur l'aspect nécessaire. En fait, pour moi, il y a deux courbes. Une courbe descendante et une courbe ascendante en ce moment qui progresse, c'est-à-dire que il y a la courbe effectivement de la prise de conscience du danger qui nous guette et de la menace existentielle qu'est le grand remplacement, et ça va avec tout le lot de souffrances que l'on constate au quotidien et qui ne fait que grandir. Donc à mesure que l'immigration progresse, à mesure que les nuisances qui sont liées à cette immigration progressent, eh bien il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience de la nécessité d'y mettre fin et de renvoyer tous les étrangers, une partie des étrangers, une partie des illégaux, peu importe, chez eux. Et en même temps, plus le temps passe, plus le nombre d'immigrés ou d'extra-européens est important sur notre territoire, moins il y a aussi de blancs, d'européens de souche à cause de la démographie défaillante, etc. Ce qui nous donne en fait une marge de manœuvre et une fenêtre d'opportunité assez courte. C'est-à-dire que globalement, en fonction des pays, nous avons 10, 20, 25 ans peut-être. Au-delà de cette période, les blancs seront en minorité sur leur territoire et il n'y aura plus aucun espoir de renverser la situation d'un point de vue politique légal dans le cadre que nous avons actuellement. Donc, nous avons peut-être une petite fenêtre d'opportunité. C'est-à-dire que c'est le moment où nous pouvons encore agir, où nous avons encore la masse suffisante pour agir, c'est-à-dire de blancs, d'européens de souche, conscients du problème, désireux de défendre leur pays, car une bonne partie des Européens, malheureusement, ne le veulent pas et veulent la poursuite de cette immigration folle, tous ceux qui votent pour la France insoumise, par exemple, et encore la possibilité de réagir. Donc, pour le moment, nous devons tout faire pour justement faire la promotion du projet de la remigration et ne pas compter uniquement sur les partis politiques. Vous avez cité Zemmour, Jean Messia, le Rassemblement National, etc. Bon, je tiens à dire d'ailleurs, vous avez dit plutôt leur proposition reste quand même timorée, etc. Vous avez cité je ne sais plus qui parle de remigration, mais qui n'entend dans ce terme que la remigration de tous les illégaux. Certes, évidemment, par rapport à toutes nos exigences, c'est médiocre. Mais si on commence déjà par là, si on obtient déjà cette petite victoire, c'est-à-dire d'un parti politique qui obtiendrait le pouvoir en France, qui parle de remigration, et dans cette remigration, on a déjà l'expulsion des illégaux, nous sommes déjà sur les bons rails. À partir du moment où la population aura accepté le nom de la remigration, elle acceptera aussi la chose, elle acceptera d'aller plus loin. Et c'est notre devoir à tout l'écosystème de droite, à toute cette mosaïque de droite autour du parti politique, que sont les différents acteurs, la Réinfosphère, le pôle de formation intellectuelle, des influenceurs, des idéologues, etc., d'aller, de converger vers ce but commun qu'est la remigration. C'est vraiment, je crois que c'est notre responsabilité, à des gens comme Daniel, comme moi, comme bien d'autres, c'est vraiment d'insister sur le fait que la remigration doit être le but commun unificateur de toutes les tendances de droite. La droite est extrêmement morcelée, bien plus que la gauche à mon avis. On parle toujours de gauche plurielle, mais non, la droite est plurielle. La gauche, les différentes tendances de gauche diffèrent entre elles dans leur méthode. Réformisme, révolution, révolutionnaire, etc. À droite, c'est un véritable chaos intellectuel. Mais au moins, ce qui peut nous réunir tous, c'est cet objectif commun qu'est la remigration. Car sans remigration, bien au fond, la différence entre nos différentes visions du monde n'a plus aucune importance. Qu'on soit libéral, royaliste, républicain, prométhéen, que sais-je encore, bien, on n'aura aucune chance de réaliser notre vision du monde si la remigration n'a pas lieu. Donc, il faut pousser à la prise de conscience de la nécessité totale et absolue de la remigration, utiliser toutes les armes qui sont à notre disposition. Pour le moment, nous ne pouvons qu'espérer, d'un point de vue politique, utiliser le cadre qui est à notre disposition, donc effectivement, instaurer un climat qui pousse de plus en plus de naturalisés non assimilés à rentrer chez eux, attaquer par exemple l'islam politique, et que sais-je encore, enfin toutes les mesures que vous avez citées au début de votre question.
Peser sur peut-être aussi les questions financières, puisque on parle aujourd'hui d'arrêter de distribuer des visas médicaux à visée médicale, d'influer sur les...
Oui, c'est ce que fait la Suède, par exemple. J'ai oublié le taux exact, mais en gros, la Suède voudrait renvoyer tous les étrangers sur le sol suédois qui ne gagnent pas un tel montant de salaire par mois. Je ne sais plus quel était le chiffre, mais c'est un chiffre suffisamment élevé pour être discriminant.
Bien sûr. Plus les allocations, plus évidemment l'octroi de HLM pour les populations non françaises, etc., qui sont des aberrations dont les gens n'ont même pas conscience, en fait, et qui existent, on le découvre au fur et à mesure, des loups que soulèvent certaines personnalités de droite aujourd'hui et dont même nous sommes étonnés de l'existence, puisque c'est quand même proprement scandaleux. Daniel Conversano, sur ce sujet, donc sur la réalité, puisqu'on arrive à un quart d'heure de la fin de cette émission, la réalité fondamentale de la remigration, donc on est sur un projet, on va dire, à étapes. On n'est ni sur une définition claire de qui, quand, comment, puisque ce serait impossible et vain, voire contre-productif aujourd'hui, de réfléchir à la fin alors qu'on est en train de promouvoir le début de la mise en œuvre du processus. Donc on est sur un processus à étapes successives et sur le comment de la mise en place, sur l'encadrement dans le cadre juridique, légal et politique qui existe aujourd'hui, avec notre rôle, votre rôle, d'influer sur le cadre existant pour que, de manière réaliste, se mettent en place toutes ces techniques dont on parle depuis le début, que ce soit par le départ volontaire, que ce soit par le découragement, que ce soit par le climat général qui permette la fin de la diminution massive des entrées et l'enclenchement de sorties. Vous, comment vous vous positionnez vis-à-vis de ça, réalistiquement parlant, en termes de mise en application de tout ça?
Alors, je ne vais pas vous satisfaire tout de suite parce que je ne vais pas du tout être dans le réalisme, parce que je voudrais aller un peu au bout de la réflexion d'Antoine, finalement, et je pense qu'il ne sera pas d'accord avec moi. J'assume le fait que, pour beaucoup d'entre nous, la remigration est d'abord un mythe mobilisateur. C'est-à-dire que c'est le mythe de notre génération. Il y a les objectifs politiques qu'on se donne et il y a les rêves au bout de ces objectifs. Je dirais un petit peu comme... quelqu'un qui travaille aux côtés d'Elon Musk ou à la NASA, bon là, il y a des objectifs qui sont atteignables, comme aller envoyer des satellites sur Mars, probablement dans 5 ou 10 ans, poser un pied sur Mars, ou en tout cas visiter la planète, l'orbite voilà, de Mars, passer à côté. En revanche, aller vers un autre système d'étoiles comme Alpha du Centaure, il est évident que probablement aucune personne vivante actuellement dans le monde ne le verra de ses yeux. Mais ça reste un mythe fondateur parce que c'est quelque chose qui pourra être atteint un jour. Voilà. Donc, si on me dit, Daniel, est-ce que tu crois que dans 10 ans, la France sera redevenue ce qu'elle était en 1960? La réponse est non. Mais si on me demande, est-ce que la France et l'Europe redeviendront, d'un point de vue, on va dire, ethnoculturel, ce qu'elles étaient il y a 100 ans, dans 100 ans, là, je dis oui. Je dis oui, déjà parce que je le désire, deuxièmement, parce que je le crois, et puis parce que c'est un rêve qui unit et qui pousse à militer. La vérité, c'est que peut-être que ça se produira, peut-être que ça ne se produira pas. Mais dans 100 ans, la plupart d'entre nous probablement ne seront plus là. Et à ce moment-là, les Européens lutteront comme ils doivent lutter en fonction des problématiques du moment. Maintenant, pour redescendre un peu sur Terre et parler de choses concrètes, il y a énormément de moyens de limiter la casse et même de revenir en arrière. Alors, on a Thomas Ferrier, qui d'ailleurs était sur les ondes de Radio Courtoisie il y a quelques années, qui a formulé une idée, qui est celle, par exemple, en fait, d'annuler les naturalisations à compter d'une certaine date, de façon rétroactive, pour être clair. Donc, et ça, c'est tout à fait envisageable dans un cadre légal. Un politique se fait élire avec cette proposition, donc ce n'est pas quelque chose de caché qui sort de son chapeau. Il dit, si je suis élu, eh bien, je re-questionnerai toutes les naturalisations de citoyens extra-communautaires, donc non, quand je dis extra-communautaires, c'est hors de l'Union européenne, on va dire, allez, je veux dire, c'est 1990, 2000, 1980, comme on veut, depuis, voilà, mettons 30 ans, voilà, tous les citoyens qui sont devenus français alors qu'ils étaient nés à l'étranger depuis 1995, eh bien, leurs dossiers sont réétudiés. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'on refait passer à ces gens un test de langue, on voit si ces gens savent parler français, on voit si ces gens ont un casier judiciaire, on voit si ces personnes, non seulement ont un casier judiciaire, mais ont récidivé. Et ensuite, on peut décider de soustraire, d'enlever la citoyenneté française à ces individus. Alors, quand j'en parle, les gens me disent « mais non, c'est impossible, parce qu'il faut encore que leur pays d'origine les accepte ».
Oui, c'est une question qu'on n'a pas abordée ce soir, en effet. Oui,
mais ça tombe bien, on est la France et je n'ai même pas besoin d'apporter une preuve pour vous dire, je suis absolument persuadé que tous les pays concernés sont des pays qui ont un poids diplomatique et politique moins fort que le nôtre. C'est-à-dire que la France, quand le bon dirigeant sera au pouvoir, exigera de ces pays qu'elle reprenne ses citoyens parce qu'ils commettent des méfaits dans notre pays. Point. Et si ce n'est pas la remigration, ce sera la prison. Voilà. Ou ce sera la vie sur le territoire, mais en tant qu'étranger, avec des droits citoyens qui sont confisqués. Les possibilités sont infinies. Quand on veut politiquement, on peut en réalité. La seule chose qui pour l'instant n'existe pas dans l'écran radar politique, c'est, parce qu'on tourne autour de la question sans l'aborder, je comprends parce qu'on marche sur des œufs bien sûr, donc je vais le formuler avec des mots choisis, mais on ne peut pas penser politiquement pour l'instant une remigration qui, d'un point de vue légal, reposerait sur des principes ethno-raciales. Ça, c'est vrai, on ne peut pas le faire. Mais ça, je dirais, c'est le bout du chemin. Avant cela, il y a l'expulsion des étrangers, tout court. On estime que les étrangers, parce qu'il y a aussi énormément de facilitation, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent rester sur notre territoire un temps considérable sans renouveler leur visa. Et on peut durcir les politiques de visa. On peut faire un peu comme aux États-Unis, Trump a fait des muslim bans. On peut décider, c'est tout à fait possible, que du jour au lendemain, on ne reçoit plus de citoyens algériens en France, mettons pendant 5 ans, même des touristes, parce que faire venir des touristes, c'est le risque que ces personnes ensuite ne repartent plus du pays. Voilà, c'est des choses que les pays, les nations ont des outils légaux qui leur permettent de prendre ces décisions, encore faut-il qu'ils le veulent vraiment. Maintenant, on ne va pas se mentir, quand on parle de remigration, on parle de l'idée de faire revenir, on va dire, un pays à un état ethnoculturel antérieur. Et donc forcément, ça inclut aussi, conceptuellement en tout cas, des personnes qui se comportent très bien chez nous et qui ne posent pas de problème, qui travaillent, qui payent leurs impôts, voilà, qui n'ont jamais commis de délit ou de crime, mais que nous désirons voir partir pour des questions purement identitaires. Et là, ma réponse, je sais qu'elle n'est pas satisfaisante parce que quand on parle de politique, on veut toujours des réponses immédiates. Je dirais tout simplement qu'on ne peut pas parler de choses qui, pour l'instant, ne sont pas dans l'écran radar. C'est exactement comme si, prenons la situation inverse, on est en 1850, et en fait, on est un militant antiraciste pur et dur, et on affirme que dans 100 ou 150 ans, les Noirs, aux États-Unis, les Noirs pourront voter, ils pourront s'asseoir dans le bus à côté d'une femme blanche, etc. En fait, on ne peut pas voir ce qui n'existe pas encore et qui est trop loin. Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas le voir que ça n'existera jamais.
Voilà. Donc, pour essayer de rebondir un peu sur vos propos, parce qu'ensuite, nous aurons 4 minutes pour conclure. Vous êtes un peu dans la pensée de José Antonio Primo de Rivera, qui nous dit « La révolution est l'œuvre d'une minorité résolue, inaccessible au découragement, d'une minorité dont la masse ne comprend pas les premiers mouvements parce que victime d'une période de décadence. Elle a perdu cette chose précieuse qui est la lumière intérieure. » C'est ça, oui. Et donc Antoine Dress, en 2 minutes...
La citation est parfaite, vous ne pouviez pas mieux le résumer. Et vous pourrez aussi ajouter que c'est tout à fait normal pour les militants remigrationnistes tels que nous qui nous écoutent, c'est tout à fait normal d'avoir le sentiment parfois d'être en décalage par rapport à la société. Mmh. C'est-à-dire que vous avez ces conversations avec des gens, qui, même sans être de gauche, hein, qui n'ont pas le même niveau d'engagement politique. En fait, vous passez à leurs yeux pour un fanatique, un hystérique ou un rêveur. Mais c'est tout à fait normal, ça ne veut pas forcément dire qu'on n'a pas raison.
Voilà. Oui, les tenants de la théorie du genre, je pense, au tout début, passaient pour encore plus fous qu'ils ne paraissent aujourd'hui. Antoine Dress, en 1 minute 30, si vous réussissez à condenser cette pensée complexe qui a été évoquée ce soir.
Oh ben alors, en 1 minute 30, je reviendrai sur le terme extrêmement important que Daniel a mobilisé, à savoir celui de mythe politique, de mythe mobilisateur. Effectivement, aujourd'hui, la remigration est devenue ou est en passe de devenir notre mythe mobilisateur. Et il faut vraiment comprendre la distinction entre utopie et mythe mobilisateur. Une utopie, c'est quelque chose qu'un intellectuel dans sa chambre, c'est ce dont un intellectuel dans sa chambre se met à rêver. Ah, bah, la France serait tellement plus belle si c'était une monarchie, si c'était un pays gouverné par un conseil de sages, que sais-je encore, si on faisait ceci, etc. Mais ce sont des aspirations qui ne rencontrent en rien les aspirations du moment. Si moi, maintenant, je me mettais à vous dire que ce qu'il faut, c'est la monarchie absolue de droit divin, J'énoncerai une théorie qui n'a aucune prise sur la réalité. Peut-être que c'est une théorie qui aurait eu une efficacité politique il y a un siècle, quand il y avait encore des clans monarchistes, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, la remigration est en train de devenir le mythe mobilisateur, c'est-à-dire une image, Daniel l'a très bien dit, une image du futur, dans un futur pas forcément extrêmement bien défini, mais qui nous pousse à l'action. C'est-à-dire que, oui, au fond, si on ne fait que réfléchir avec des catégories purement rationnelles, est-ce que vraiment on croit sérieusement, vu toutes les courbes démographiques, etc., que notre pays arrivera à se relever vraiment du traumatisme qu'il est en train de vivre? Pas forcément. Mais d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue sensible, on en a l'intuition, on a cette image, et c'est elle qui nous pousse à militer. Et c'est ça qui a poussé les chrétiens à se battre dans les premiers siècles, les communistes à se battre au nom de ce mythe d'une société sans classe, etc. Moi, il y a 5 ans, j'avais commencé ma chaîne YouTube, j'avais parlé justement de cette notion de mythe mobilisateur chez Georges Sorel. Et j'étais convaincu que ce qui manquait à la droite, c'était justement la présence d'un mythe. Nous étions uniquement toujours dans la critique des idées de gauche, critique souvent très pertinente, mais au fond, nous n'avions pas grand-chose à proposer. Et de nombreux spectateurs, de nombreux abonnés me disaient « Mais très bien, mais quel pourrait être le mythe pour la droite ?» Et il y a 5 ans, honnêtement, je ne savais pas vraiment quoi répondre, parce qu'en fait, le mythe ne se décrète pas, il se sécrète à un moment donné. Et à l'époque, nous en avions d'ailleurs parlé avec Daniel, il m'avait invité sur sa chaîne pour en parler. Et
en
nous
10 parlé secondes, s'il vous plaît, Antoine Dresse.
et nous n'étions pas arrivés à cette idée de rémigration. Or, aujourd'hui, il nous apparaît comme une évidence. Et voilà, je voudrais terminer là-dessus.
Très bien, bah écoutez, merci à vous deux. Je pense que sur un sujet aussi complexe et qui pose encore beaucoup de questions, même à tous ceux qui l'emploient dans la sphère politique aujourd'hui, on a quand même évoqué beaucoup de choses tangibles, que ce soit philosophiquement, que ce soit sur le fond, que ce soit sur la portée, sur ce que ça peut apporter à la droite aujourd'hui et sur les manières de le réaliser. Nous vous invitons à suivre le Libre Journal de l'Occident et à nous retrouver avec Daniel, avec Antoine et bien d'autres. Merci à tous et à très bientôt.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de l'Occident dirigé par François-Xavier Jiquel, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mardi 9 juin 2026 de 21h30 à 23h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal, commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros, ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.